Salut à tous, quelques news du bord.
C'est Benjamin.
Hello.
Bonjour à tous, en ce lundi ensoleillé, nous venons d'empanner
avec l'association Water Family sur la préservation de l'eau.
Plein de courage, allez, je vous dis à bientôt, ciao.
Bonjour à tous, c'est Benjamin Dutreux.
Benjamin Dutreux.
Et maintenant, rendez-vous au départ.
Les kids, je suis avec Flaggy, ici présent.
5, 4, 3... 2, 1.
Top départ, ça y est, c'est parti.
À bientôt.
Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de La Voix Rousse. Ce mois-ci, nous allons débriefer de la deuxième course de la saison, la Vendée Arctique. Lors de cette deuxième édition, les conditions météo ont pris un tournant inhabituel. Les 24 skippers s'élançaient le dimanche 12 juin des Sables d'Olonne en direction du cercle polaire arctique. Ils devaient contourner l'Islande avant de revenir en Vendée. Cependant, les choses ne se sont pas passées comme prévu. Avec Thomas, le directeur technique, nous allons revenir sur cette course et débriefer sur le parcours de Benjamin. Salut Thomas.
Ah, salut Zoé.
C'était la deuxième édition de cette Vendée Arctique. Qu'est-ce que c'est le parcours un peu ? Est-ce que tu peux nous expliquer ?
Le parcours de la Vendée Arctique, c'est un parcours entre les Sables d'Olonne et l'Islande, voilà, qui est une île entre le Groenland et l'Écosse. C'est des zones où on va pas souvent, les IMOCA n'ont pas l'habitude d'y aller, n'y vont même jamais. Donc c'est un parcours atypique et avec pas mal d'embûches.
C'est quoi l'intérêt de cette course ? Je crois qu'elle était qualificative pour le Vendée Globe. Et il y a aussi de conditions un peu qu'on retrouve nulle part ailleurs.
Oui, alors c'est une course qui est qualificative pour le Vendée Globe. Ça veut dire que pour la course au 1000, pour se qualifier pour le Vendée Globe, c'est important de faire toutes les courses. Ça en fait partie et effectivement c'est une zone du globe où on rencontre des conditions proches des mers du sud avec des dépressions plutôt puissantes et des températures très basses, voilà. Donc ça peut être un bon entraînement aux conditions rudes pour les marins qui n'ont pas forcément souvent l'occasion d'aller dans ces endroits-là.
Hello à tous, ça y est, c'est parti. Direction ouest avant de passer la prochaine dorsale pour faire du nord à bord de Gu Environnement Water Family. C'était un super départ, merci encore à tous pour l'accueil aussi sur les quais, c'était incroyable. Voilà, maintenant ça y est, on a retouché un peu de vent et là ça déboule. Donc j'essaie de m'accrocher au paquet et c'est parti pour un apprentissage accéléré et direction l'Islande. Allez, je vous dis à bientôt, ciao ciao.
Alors Benjamin a pris un très très bon départ, il y avait des conditions favorables au foiler, il y avait beaucoup de vent, comment ça s'est passé sur l'eau ?
Alors le départ il a été dans des conditions plutôt sympas avec un vent d'une dizaine de nœuds, pas trop fort, malheureusement on aurait bien aimé qu'il vole sur la ligne de départ mais il manquait un tout petit peu de vent, mais assez rapidement le vent s'est renforcé et les bateaux se sont envolés et donc à partir du moment où les foilers arrivent à voler ils ont un gros ascendant sur les non-foilers. Et donc, ils ont eu des conditions très toniques, très sportives pour le début de course.
Donc, malheureusement, il a débuté sa course avec un premier problème dans la première nuit sur ses voiles. Donc, d'abord le J2. Qu'est-ce qui s'est passé sur ce J2 ?
En fait, après quelques heures, j'ai reçu un appel de Benjamin m'expliquant qu'il avait son J2, donc la voile. Une voile qui est sur l'avant du bateau, qui est une voile fixe normalement, qu'on ne peut pas affaler. Et donc, elle s'est déchirée. Voilà, ça a été compliqué pour lui de ramener la voile à bord. Voilà, il a réussi à rouler les morceaux qui étaient toujours à poste sur le mât. Et ça a également endommagé sa grand voile en même temps. Donc, à partir de 4 heures après le départ jusqu'à l'arrivée, il avait plus de J2 et donc la grand voile avec un ris, c'est-à-dire que la grand voile était réduite parce qu'il y avait un trou d'à peu près 1 mètre dans la grand voile. Donc, ça a été une phase compliquée dès le début.
Oui, écoute, ça se passait bien, mais j'ai eu quelques soucis sur des voiles. Donc là, je suis au ralenti, là, en train d'essayer de réparer. J'ai déjà une partie de ça la nuit dernière et là, j'essaye de réparer ma grand voile là pour essayer de repartir dans des bonnes conditions. Là, on vient de toucher du vent qui est assez faible, donc c'est l'occasion de faire ça. En fait, j'ai eu un problème sur une voile d'avant. vraiment ce qui s'est passé, mais je pense que la voile d'avant a été claquée dans la grand voile et du coup il y a tout le bas de la grand voile qui est, enfin l'arrière du bas de la grand voile qui est déchiré. Du coup depuis ça, je suis bloqué avec un riz et là du coup j'attendais des conditions plus clémentes pour essayer de réparer.
Et pourquoi vous avez décidé de pas communiquer sur ce J2 dès le début de la course ?
En fait, on décide simplement de pas communiquer sur ce J2 parce que dans des phases complexes, les concurrents savent que Binge n'a pas de J2, ça peut leur donner un avantage psychologique. C'est mieux de le garder pour soi. Et puis si jamais il n'y a plus trop d'enjeux dans la course, on peut l'annoncer un petit peu plus tard. Mais nous, on a décidé de le garder pour nous jusqu'à la fin. On a communiqué sur la grand voile, mais pas sur le J2.
Du coup, il a essayé un peu de réparer ses voiles. Est-ce qu'il a essayé de réparer le J2 ou c'était fini? Et du coup, il a essayé de réparer sa grande voile aussi.
Ouais, alors le J2, il a même pas essayé de le réparer parce que de toute façon, il était vraiment trop déchiré et c'était pas possible. La grand voile, il a tenté une réparation. Sur un Vendée Globe, on aurait pris les choses un peu différemment. Pour la grand voile, on aurait pu la réparer parce qu'on avait du matériel qui nous permettait de le faire, mais sur une course comme la Vendée Arctique, ça lui aurait fait perdre trop de temps. Et donc, en termes de bénéfices, ça aurait pas été très intéressant. Donc, on a décidé de lui faire une tentative de réparation rapide dans l'anticyclone, qui a pas été très fructueuse. Et du coup, derrière, on a décidé de garder un riz tout le long de la course.
Toi, jusqu'où tu peux lui donner des conseils pour réparer cette voile ? Tu lui dis, bah, faut que tu fasses comme ça, faut que tu ailles chercher tel outil, telle chose. Ou c'est vraiment lui qui se débrouille sur ce genre de course?
Sur le plan technique, j'ai le droit de lui faire des tutos, entre guillemets. Pour certaines choses, il n'y a pas besoin de mon avis. D'autres choses, il me pose la question et moi, je lui prépare des tutos. Là, en l'occurrence, pour la grand voile, il n'y avait pas beaucoup de temps. On savait que c'était un petit peu peine perdue. Donc on n'a pas mis en place de gros process de répar. On savait qu'on avait de l'autocollant, du scotch à voile. On a essayé de réparer tant bien que mal, sans trop insister sur le procédé. Voilà. Par contre, derrière, moi, je lui ai apporté des solutions, par exemple, pour son J2, pour la partie de la voile qui restait dans le mât. Je lui ai donné un process pour bloquer la voile, éviter qu'elle se déroule toute seule dans la tempête, avec des petits schémas, des petits dessins.
Du coup, il n'a pas réussi à réparer cette grande voile. Donc, c'était quoi les conséquences sur la suite de sa course? Et est-ce que ça l'a vraiment beaucoup pénalisé pour la suite ou...
Ouais, ça l'a beaucoup pénalisé. Parce que tout simplement, dans le petit temps, dans l'anticyclone, on a besoin de grandes voiles, de grandes surfaces de voiles. Et le fait d'avoir un riz dans la grand voile, ça ralentit énormément le bateau. Et comme j'avais pu le dire précédemment, l'idée, quand on est coincé dans un anticyclone, c'est d'en sortir le plus vite possible. Donc là, forcément, ça lui a fait perdre des minutes, des mètres précieux quoi, pour gagner du terrain et notamment pas en perdre sur ceux de derrière.
Hello à tous de l'Ouest. Ouais, ça y est, je crois que je suis plus à l'Ouest. Pour rien vous cacher, je crois pas que ce soit une très bonne nouvelle, mais... Mais j'ai l'impression d'être à moitié pris au piège. J'arrive pas à sortir de là, à chaque fois il y a de la molle qui me tombe dessus. Et j'ai l'impression qu'à chaque fois ça va s'ouvrir par l'ouest avec le flux qui va arriver, mais finalement ça arrive jamais. Donc j'ai l'impression que c'est de pire en pire ce que je suis en train de faire.
Pourquoi est-ce que je suis allé dans les plus à l'ouest? Probablement une erreur, mais je me suis recalé plutôt au mieux du groupe au début et j'étais pas forcément le plus à l'ouest, c'est pas forcément ce que je voulais faire, mais j'étais arrêté dans de la molle à l'avant et je voyais tous les bateaux de derrière qui revenaient vite. Donc je pensais, j'avais peur que de buter dans la dorsale. Et du coup je me suis dit si tout le monde bute comme ça, la sortie elle est vers l'ouest. Et donc j'ai fait beaucoup d'ouest de manière un peu démesurée, j'ai pas très bien géré mon coup. Maintenant je suis dans l'ouest, donc je vais faire avec. Hein.
Alors comme on vient de l'entendre, Benjamin a un peu regretté son choix d'aller vers l'ouest, parce qu'il se fait piéger par la dorsale. Toi, dans ces cas-là, tu l'as conseillé, c'est lui qui a fait ce choix stratégique. Quel est ton rôle à ce moment-là?
En fait, avant le départ, Benjamin, il définit une stratégie météo avec un routeur. Voilà, là, il a fait sa stratégie avec Sébastien Simon. Donc avant le départ, ils définissent une stratégie à court terme et à moyen terme. Et ensuite, tous les 6 heures, il y a des nouveaux fichiers météo qui arrivent. Et donc Benjamin, lui, est à bord, il a son ordinateur qui lui permet de faire des routages, c'est-à-dire de définir la meilleure route à prendre pour aller vers le point voulu. Et du coup, il fait une mise à jour régulière de son routage. Et donc, ça lui permet de définir s'il doit aller dans l'ouest, dans le nord. Et là, en revanche, il s'est retrouvé un petit peu coincé parce qu'en fait, il avait opté pour une route très ouest. Voilà. Et la situation météo était assez instable. Et en fait, la dorsale s'est déplacée dans l'ouest, malheureusement pour lui. À la base, il devait récupérer du vent qui devait arriver par l'ouest. Sauf que là, il a pas réussi à attraper ce vent, il s'est fait piéger et il l'a regretté un petit peu. Même si on regarde un petit peu plus loin dans la course, le fait d'avoir été à l'ouest lui a permis de repasser devant tout le paquet de l'est, une partie du paquet de l'est, donc le choix n'était pas si mauvais que ça.
À ce moment-là, il était un peu. Comment tu. Est-ce que tu lui as parlé? Dans quel état d'esprit il était quand il se retrouve dans cette dorsale sans vent
Alors en
et
fait,
qui perd du terrain?
alors il y a des moments où psychologiquement c'est compliqué, on le sent dans les échanges. Maintenant, là c'est une course qui est assez courte. Benjamin, il a plutôt un mental solide. Voilà, c'est pas quelqu'un qui se plaint beaucoup, donc je ressens bien dans sa voix et dans ses échanges qu'il est un peu déçu de ce qu'il a fait et que c'est un petit peu compliqué psychologiquement, mais c'est pas une personne qui se plaint et voilà, moi je l'encourage, je lui dis voilà, faut continuer, c'est bien, de toute façon tu auras toujours l'occasion de revenir, etc. Voilà, je vais essayer de l'encourager, quoi.
Par la suite, donc la course a un peu, il y a eu un peu beaucoup d'échéances qui se sont passées. D'abord, ils ont commencé par modifier le parcours. Ça a été la première décision de la direction de course. Finalement, tous les skippers ne vont pas faire le tour de l'Islande. Comment vous avez réagi à cette première décision qui n'a pas duré très longtemps puisque 24 heures après, ils ont décidé de neutraliser la course. Mais est-ce que la modification du parcours vous a paru être une bonne chose pour Benjamin?
Bah, nous, on suit les conseils enfin, nous, on suit l'avis de la direction de course. Voilà, ils ont décidé de réduire le parcours. Jusqu'à ce moment-là, ça n'avait pas changé grand-chose pour nous, à part qu'ils ne feraient pas le tour de l'Islande. Mais bon, vu les conditions météo, c'était pas vraiment une bonne idée. Et derrière, ils ont décidé de neutraliser. Et là, c'est à ce moment-là que ça a été un petit peu plus compliqué à gérer. Parce que, à partir du moment où ils neutralisent, ça change pas mal de choses. Ça devrait pas, mais psychologiquement, le mot neutraliser, ça fait un petit peu comme si la course était entre parenthèses, alors que tant que la ligne fictive d'arrivée en Islande n'était pas passée, la course n'était pas finie. Mais déjà dans sa tête, Benjamin, lui, il n'était plus en course. Voilà, il avait mis de côté. C'est ce qui explique aussi le fait qu'il ait perdu pas mal de place, parce qu'il était très conservateur, il a fait attention au matos. Donc je dirais que sur cette course, sa place de dixième, elle n'est pas vraiment représentative de ce qu'il est capable de faire.
Hello à tous, à bord de Gui Environnement Water Family. Donc, la direction de course a décidé de mettre en stand-by la course à l'arrivée des bateaux pour une durée d'environ 24 heures. Enfin, on ne sait pas trop pour l'instant. Bref, là derrière, a priori, ils sont bien brassés. Moi, je me prie bien de prendre un grain à 35 nœuds, mais ça va. Et là, ça peut paraître ridicule, mais je suis. J3 GB2 RI déjà alors qu'il y a 15 nœuds devant. Mais bon, je préfère anticiper un peu et faire gaffe au bateau surtout. Voilà, on arrivera là-bas. Voilà, c'est la course un peu entre parenthèses. On arrivera quand on arrivera. C'est dur à dire, mais c'est le cas.
À partir du moment où ils ont neutralisé, là on est passé en mode un petit peu sécure, ramener le bateau. Nous, voilà, il faut aller passer la ligne d'arrivée pour la fameuse course aux milles pour le Vendée Globe. On avait déjà, il avait déjà pris pas mal d'expérience sur cette course. Donc voilà, la neutralisation a fait que bien, il a changé de mode de course. Et derrière, il a fallu gérer la situation qui était de s'abriter au large de l'Islande. Donc ça a été un petit peu une gestion de crise, savoir est-ce qu'on va se mettre au mouillage ou pas? Est-ce qu'on reste plutôt au sud de l'île, au nord de l'île? Est-ce qu'on fait demi-tour? Est-ce qu'on abandonne? Voilà, il y a plein de questions qui se posent. Et donc là, la décision, ça a été de continuer, de passer la ligne d'arrivée, d'aller s'abriter derrière l'Islande, en attendant la décision qui a été d'arrêter la course tout simplement là-bas.
Il y a eu un moment où vous avez émis l'éventualité d'abandonner ou vous êtes toujours dit que vous allez continuer quand même passer cette porte et revenir?
Alors moi, à partir du moment où ils ont annoncé la neutralisation, j'ai essayé d'explorer toutes les options vis-à-vis de la position qu'il avait par rapport à la flotte et à la dépression. Et à un moment donné, je me suis posé la question, et je lui ai posé la question, est-ce qu'on ne ferait pas demi-tour tout de suite pour quitter cette dépression? Ça lui faisait quand même traverser le plus fort du vent, mais en même temps, en allant en Islande, on ne savait pas quand est-ce qu'ils allaient pouvoir repartir. Donc voilà, on s'est posé la question et après avoir fait quelques routages, on s'est dit non, la décision de continuer, elle est meilleure, il faut aller jusqu'au bout, passer la ligne et ensuite se mettre à l'abri. Et derrière, 24 heures après, il y avait un créneau pour requitter l'Islande, donc c'était la meilleure des solutions.
Pour moi, c'était plutôt avant l'arrivée sur l'Islande où c'était un peu chaud parce qu'en gros, je me faisais rattraper par la dépression. En fait, moi, j'ai fait toute la fin dans le centre de la dépression, ce qui m'a valu de me faire rattraper par les bateaux derrière et de me faire doubler à la fin parce que j'avais pas de voile, j'avais pas assez de voile pour. Enfin, j'avais plus mes voiles pour être bon dans les dévents, quoi. Mais en gros, ouais, voilà, moi, j'étais un peu. En gros, j'étais sous tourmentin avec GV3RI et d'un seul coup j'avais 40 nœuds, j'avançais, hop, je rebutais dans le milieu de la dépression et ainsi de suite. Et donc voilà, jusqu'à ce que je tombe dans les dévents de l'île. Et là, la mer commençait à être formée, mais ça allait encore. Et après, j'ai plutôt joué sur au moment de l'arrivée avec des grosses accélérations de vent entre les fjords. Une mer pas trop chaotique, ça va. Voilà, des grosses accélérations de vent entre les fjords et surtout des moments avec zéro nœud de vent, pas de vent du tout dans les dévents. Donc c'était un peu spécial et un peu dur.
Un peu plus tard dans la soirée, donc toujours dans la même journée du vendredi, la décision d'arrêter la course est prise. Donc tous les skippers qui ont passé cette porte virtuelle, ça détermine du coup le classement. Comment vous avez un peu accueilli ces décisions? Est-ce que c'était un soulagement ou est-ce que vous étiez plutôt déçu à ce moment-là?
Non, pour moi c'était un soulagement parce que y avait simplement deux options qui se dessinaient. C'était l'option d'arrêter la course et la seconde option c'était de faire repartir les marins avec une escale de 36 heures minimum. Ça voulait dire que Benjamin partait 24 heures après Charlie et que derrière ça avait plus trop de sens sportivement. Qu'ils allaient avoir des conditions au prêt pour rentrer, pour aller au waypoint Atlantique. Et donc pour moi, la course n'aurait pas été vraiment très intéressante. Donc voilà, je pense que c'était la bonne décision d'arrêter la course et que c'était très bien pour nous.
C'est déjà arrivé en IMOCA que des courses comme ça soient arrêtées ou pas?
Neutraliser des courses en IMOCA, je n'ai pas mémoire. Hein. Je pense pas que ça arrive très souvent. C'est des bateaux qui sont quand même censés pouvoir affronter toutes les conditions. Non, c'est pas. Moi, je me souviens pas avoir vu des courses d'Imoca neutralisées.
À 4h24 dans la nuit de vendredi à samedi, je passe la ligne d'arrivée 11e, après 5 jours, 11h24 minutes et 30 secondes de mer. Là, c'est un peu un vrai soulagement pour se dire que c'est un peu terminé du côté sportif, on va dire. Mais il y a aussi la question de quand, comment rentrer, est-ce que ça va bien se passer le retour et ce convoyage. Là, tu lui redonnes certains conseils ou tu le laisses un peu choisir comment il le sent, ce qu'il veut faire, est-ce qu'il était fatigué
Là, moi, à ce
voilà.
moment-là, je lui dis voilà ce qu'on va faire en attendant. Puis moi, la différence, c'est qu'il y a les conditions que nous, on imagine via les fichiers météo, la direction de course qui nous donne des informations sur les mouillages, etc. Et puis il y a ce qu'il y a sur place et la manière dont eux le vivent. Moi, j'essaie toujours de prendre du recul par rapport à ce que Benjamin me dit, parce que parfois, il est fatigué et il n'est pas forcément. Il peut parfois avoir des petits manques de lucidité. Donc, moi, dans ces moments-là, mon rôle, c'est d'essayer de vraiment prendre du recul et de l'aider à prendre les bonnes décisions. C'est lui qui reste capitaine du bateau, hein. Il est à bord, donc c'est lui qui prend les décisions, mais moi, j'essaie de l'aiguiller et ensemble, on prend les bonnes décisions. Là, la décision, ça a été de rester la nuit à la cape, voilà, avec voilure réduite au ralenti, en faisant attention aux autres bateaux qui allaient passer la ligne, et d'essayer de repartir le plus vite possible derrière pour profiter des bonnes conditions pour rentrer au sable le plus vite possible.
Ah, c'est Flaggy qui doit être content parce que là il est à bord et il retrouve ses potes là-bas là. Les potes du glacier. Bah, si vous voyez là-bas, c'est magnifique.
Et donc du coup c'est un peu plus détendu que Benjamin, il entame son retour, comme il le dit, aux côtés de Damien. Faut quand même faire attention au bateau, parce que c'est pas fini et il faut rentrer au sable. Est-ce que toi t'appréhendes un peu de retrouver le bateau? Dans quel état il est? Ce qui a été cassé, les voiles?
Non, parce que j'ai déjà une bonne photo
Ouais.
de l'état du bateau. Voilà, au fur et à mesure des soucis techniques, il me les communique. Donc je sais à peu près dans quel état je vais retrouver le bateau.
Et les voiles, vous en avez d'autres de spare
En
ou
fait, les
comment?
voiles, on en avait commandé déjà pour la route du Rhum. Donc on aura nos nouvelles voiles
Ah
pour
ouais.
septembre. Donc on va pouvoir continuer notre programme comme si de rien n'était. Voilà, là on avait des. En fait, ce souci de voile, on l'a eu parce qu'on a récupéré des vieilles voiles. Initialement, quand on a racheté ce bateau-là, on devait avoir des voiles de la Transat Jacques Vabre qui étaient neuves. Et là, comme le bateau a dématé, on a eu des voiles de 2019 qui étaient usées, qui étaient des voiles qui avaient été faites de manière très légère pour des courses courtes comme les Transats. Et donc, elles ont énormément navigué ces voiles et donc elles étaient fatiguées, donc voilà, elles ont cassé. Mais non, il n'y a pas de souci, on va avoir des nouvelles voiles. Et du coup, je pense qu'avec des nouvelles voiles, l'installation de nouvelles électroniques dans les semaines à venir, le bateau il sera à 100% de son potentiel pour la route du Rhum, qui reste notre objectif principal cette saison.
Ben, merci beaucoup, Thomas.
Salut Zoé!
Benjamin tire quand même un bilan positif de cette course, même si sur le chemin du retour, il a croisé quelques difficultés.
Globalement, du coup, j'ai pas appris grand-chose sur le retour, à part voilà, on a eu un souci de quille la veille d'arrivée, et ça, c'est le faux vérin qui est sorti de la quille, qui a abîmé la cloison de quille, et du coup, ça nous va nous demander un gros boulot de chantier juste après, et ça, je suis un peu dégoûté, mais en même temps, je préfère que ça arrive là plutôt que pendant une autre course. Et sinon, bah voilà, j'ai pu quand même vivre longtemps à bord du bateau, donc ça, c'est quand même pas mal, parce que ça m'a permis de voir pas mal de petites optimisations à faire en vue du chantier qui va avoir lieu en juillet là. Et voilà, par contre, je garde quand même de magnifiques images en tête, hein. L'Islande, ça a l'air incroyable. Juste déçu de ne pas avoir fait le tour de cette île-là, quoi. Ça, franchement, voilà, moi, j'étais venu là pour ça, en fait, pour partir à l'aventure, faire le tour de cette île et pour faire la course. Au moment où je me suis dit que bah, la course était entre parenthèses, je me suis dit, bah, au moins, garde à l'esprit que tu vas faire le tour de l'Islande et que c'est un truc assez dingue. Bon, au final, c'est comme si on avait fait le tour quasiment, parce qu'on est monté aussi nord, mais on n'a pas fait le tour et c'est vrai que c'est un peu dommage quoi. Mais bon après voilà globalement c'était une course qui n'était pas facile mentalement du coup mais je me suis bien accroché. Je reviens quand même avec une liste qui est assez imposante de choses à faire sur le bateau. Globalement après le départ j'ai pu voir que j'avais une super vitesse, que le bateau allait vraiment très bien. Mine de rien, je suis à l'aise à bord de mon bateau. Comme je disais au gars tout à l'heure en arrivant, avant je me cognais tout le temps au même endroit, partout dans le bateau, et maintenant en fait j'arrive à. C'est devenu assez automatique en fait, j'arrive à me faufiler dans le bateau sans me cogner partout. Donc déjà, ça veut dire que je commence à prendre un peu les dimensions du bateau et que je commence à être habitué. Et sinon, bah, voilà, il y a eu zéro problème d'électronique. Globalement, c'est quand même un point. Il y a quand même eu quand même pas mal de points positifs, quoi.
Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode de La Voix Rousse. J'espère qu'il vous aura plu et on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. Bye bye.